Bonjour. Je vous propose une lecture d'un tout petit texte dans le cycle de notre lecture de l'épître de Jacques, pardon. Le sujet de ce mois-ci, c'est l'être humain et ses travers. L'être humain et ses travers. Et j'ai juste une phrase à vous lire, ou deux peut-être, du psaume 51. Le psaume 51 est un psaume célèbre dans lequel le roi David doit confesser quelque chose de mal qu'il a fait. Et c'est un psaume qui, je pense, dans lequel beaucoup de personnes se sont retrouvées. Quelles sont les circonstances, très brièvement, dans lesquelles ou pour lesquelles ce psaume a été écrit ? David, c'est le roi David, il était roi d'Israël, et il a couché avec une femme dont le mari était au combat. Puis, je résume énormément, il a fait tuer son mari pour pouvoir épouser cette femme et sauver les apparences pour l'enfant qui allait naître. Et puis ensuite, un prophète qui s'appelait Nathan est venu faire des reproches à David. Adultère et meurtre quand même. David a pris conscience de ce qu'il avait fait après avoir été secoué par ce prophète Nathan. Et cela a donné lieu à ce psaume numéro 51 dans nos Bibles. C'est le verset 5 qui a retenu mon attention pour ce matin. Je connais mes transgressions, et d'autres traductions ont, je reconnais mes torts, et c'est une expression très actuelle que nous utilisons, et mon péché est constamment devant moi. Je reconnais mes torts, et mon péché est devant moi. David fait preuve d'honnêteté. Il aurait pu s'en prendre à Nathan, il était roi David. Vous pouvez très bien imaginer la scène que David, voyant ce prophète lui dire ces quatre vérités, le fait arrêter et mettre au fer, et Nathan aurait pu terminer sa vie en croupissant en prison. D'autres histoires dans la Bible elle-même et dans le monde montrent ce genre de comportement. David aurait pu faire emprisonner Bathsheba, cette femme avec laquelle il a couché, la faire disparaître, pour faire disparaître sa faute. Mais non, David, roi d'Israël, a dit « Je reconnais mes torts ». Ce petit verset 5 m'a fait, je l'avoue, penser à bien d'autres phrases que nous disons. Vous les avez dans le Quoi de neuf. Et je vais les prendre l'une après l'autre. Car si David nous donne une leçon ici, à savoir reconnaître ses torts, peut-être que nous avons, nous, à réfléchir d'un peu plus près à un certain nombre de choses ou de pratiques, de choses que nous disons, de pratiques que nous avons. Tout d'abord, ce petit mot que nous utilisons souvent, et moi le premier d'ailleurs, « désolé ». Désolé. Un fumeur me demande du feu pour allumer sa cigarette. Et je ne fume pas, donc je lui dis « désolé ». Surtout désolé pour lui de ce qu'il fume, quelque part, plutôt que moi de ne pas fumer. Quand je marche sur le pied de quelqu'un malencontreusement, dans le bus, au moment où le bus freine, par exemple, je dis « désolé ». Mais savez-vous ce que c'est qu'un paysage désolé ? C'est un paysage où il y a des arbres morts, une eau glauque et saumâtre, où il y a des cadavres d'animaux, des squelettes, paysages désolés. Et quand nous disons désolé, ce n'est qu'une expression de surface. Nous le disons peut-être trop facilement, ce désolé. Quelle est notre attitude ? Notre culture de l'humilité et de l'usage du pardon peut avoir un côté pervers. La culpabilisation, une lecture très maladroite de ce verset 5. qui peut n'être qu'un usage superficiel. On demande pardon à tire-larigot, on dit désolé à tout bout de champ, et ainsi on se libère à bon compte d'actes qu'on aurait peut-être pu faire et qui seraient blessants ou maladroits. Ça peut être aussi l'image d'une mentalité profonde, cette désolation. Cette image de soi désolé, comme un paysage est désolé. Nous pouvons avoir cette image de nous-mêmes d'être marqués par le mal, un genre de perfectionnisme intérieur qui renvoie toujours aux imperfections personnelles, qui n'est jamais satisfait de ce qui a été fait ou dit. Un genre d'aveu permanent de culpabilité qui, d'un certain point de vue, permet de rester dans sa faute à bon compte. Le psaume 51 ne se limite pas à la petite phrase que j'ai dite, que j'ai citée, « Je reconnais mes torts ». Il demande et reçoit le pardon de Dieu. Il ne reste pas dans cette culpabilité, mais il en sort. Après l'avoir dite, il en sort. Verset 9, par exemple, « Ôte mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Ne disons pas « je suis désolé » trop facilement, trop à la légère. Ou ne nous installons pas dans une désolation intérieure. Ce sont ces deux choses sont des mauvaises lectures de cette reconnaissance des torts dont David a fait preuve. Et puis il y a cette autre phrase, « Excusez-moi ». Autant il faut suivre l'exemple de David au verset 9, « Ôte mon péché, lave-moi », etc., et recevoir de Dieu le pardon de nos fautes, autant il ne faut pas que ce pardon nous exonère, nous exempte d'une vraie prise de conscience de notre capacité à faire le mal, d'une remise en cause personnelle. C'était l'objet d'un de mes propos mercredi dernier en études bibliques. C'est trop facile, et surtout hypocrite et stérile, de clamer le pardon sur nos fautes, sans même avoir mesuré la portée de nos fautes, l'éventuelle gravité de nos fautes, des blessures provoquées, les conséquences. Hier, j'étais au marché de Noël. Il y avait beaucoup de monde. Et j'ai bousculé quelqu'un sans le faire exprès. J'ai dit « excusez-moi », un petit signe de la main et tout était fini. Mais imaginez qu'en bousculant cette personne qui, évidemment, avait un verre de vin chaud à la main, brûlant, je lui fais renverser ce verre de vin chaud dans le sac à main de sa femme qui était en train de prendre son porte-monnaie, laquelle a donc été brûlée par le vin qui tombait sur sa main et dans son sac. Elle a donc crié. Et ce cri a attiré l'attention d'un piéton qui marchait non loin de là et qui s'est pris les pieds dans un pied, qui est donc tombé et en tombant, qui a entraîné la chute d'un présentoir d'objets très fragiles, en verre, qui se sont tous brisés en tombant par terre. Alors là, si moi je dis « excusez-moi » et puis je continue mon chemin, ça ne va pas aller. Vous voyez la nuance ? Dans nos relations, quelquefois, on se contente d'un simple « excusez-moi ». Alors qu'on a blessé des gens, qu'on a fait du mal à des gens. Et on s'imagine qu'on va s'en sortir comme ça avec un petit « excusez-moi ». Une autre petite phrase, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Si, j'ai péché, ok, j'étais vraiment mauvais sur ce coup-là, mais c'est de sa faute, hein, franchement. Qui n'a jamais dit ça? C'est une histoire vieille comme le monde. Prenez le récit de Genèse 3. Genèse 3, c'est juste après Genèse 2, et c'est juste après Genèse 1, et avant, il n'y avait rien dans la Bible. Vous êtes au courant de ça? Donc, c'est tout au début. Et qu'est-ce qui est raconté? Verset 12. Et Adam et Ève ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Ils ont consommé de cet arbre, le fruit de cet arbre. Et Dieu arrive devant Adam et lui demande des comptes. Et là, Adam dit deux choses. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Alors d'une part, il accuse la femme et il accuse Dieu de la faute qu'il a commise lui. Qu'est-ce que fait la femme ? C'est le serpent qui m'a trompé. Vous voyez le principe ? Et aujourd'hui, on entend beaucoup dire « c'est pas ma faute, hein. C'est de sa faute à lui ». David aurait pu dire ça d'ailleurs de Bathsheba. Elle n'aurait pas dû être aussi belle. C'est de sa faute si j'ai péché. On entend ce genre de propos aujourd'hui à l'égard des abus sexuels. Hein. Un propos très actuel. C'est pas ma faute. De la part des harceleurs, des auteurs de paroles ou de gestes déplacés, des abuseurs et des violeurs qui vont oser rejeter la faute sur leurs victimes. Et plus généralement, les auteurs de violences vont très facilement dire « si je suis violent, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de la société, c'est la faute d'un tel qui m'a regardé de travers, c'est la faute de je ne sais quelle autre victime de la violence ». C'est très pratique. C'est une recette très ancienne qui a fait ses preuves. C'est quelqu'un qui paye la facture à ma place. On est sans faute, nous, puisque c'est la faute de l'autre. On n'a rien à se reprocher. Ainsi a toujours accusé les autres d'être la cause de mes mauvais comportements. Je m'éloigne dangereusement de l'exemple montré par David qui, lui, tout roi d'Israël qu'il était, a écrit « Je reconnais mes torts ». Allez, une autre petite phrase. J'ai rien fait. Alors, ma femme et moi, nous avons élevé 4 charmants enfants. Ils ont tous dit ça. Honnêtement, je pense que moi, bon, pour Jocelyne, je ne vais pas m'avancer, mais moi, je l'ai dit aussi, hein. À un moment donné, quand il y a une assiette qui est tombée dans la cuisine et qui s'est cassée en 1000 morceaux, que j'étais seul dans la cuisine, je vais quand même dire « j'ai rien fait ». C'est pas moi. C'est le chat. Pratique les chats pour ça. On l'entend aussi au tribunal, ce genre de phrase. Quand dans une audience, il y a des gens qui n'ont rien fait. Ils se demandent pourquoi ils sont là. On l'entend de certains hommes politiques, cette phrase, qui n'ont rien fait, mais on découvre après ce qu'ils ont fait. C'est le déni, c'est nier ses torts. On a mal parlé à quelqu'un ? Mais non, je suis franc, c'est tout. On s'est moqué d'une personne ? Mais non, c'est de la plaisanterie. On a fait un excès de vitesse ? Mais non, c'était de la distraction. Nous avons un art consommé de revêtir nos torts d'habits anodins. Et nous devons plutôt ressembler à David qui, lui, a dit « Je reconnais mes torts ». Mais il faut un jour ou l'autre y voir clair de toute manière. L'autre jour, j'avais mal à une dent. Ça nous arrive à tous. Et le réflexe à tous, je pense, si vous êtes fait du même bois que moi, c'est de dire « Oh, c'est rien, ça va passer, c'est rien ». On sait tous très bien que si on se dit ça, tôt ou tard, ça va revenir. Et là, ça va pas être rigolo. Ça ne sert à rien de dire quand j'ai mal à une dent, je n'ai pas mal. Ce qu'il faut faire, c'est prendre rendez-vous chez le dentiste. Sinon, le mal progresse. Il y a un effet curatif à reconnaître ces torts. Ça nous permet d'avancer, de corriger ce qui est à corriger, d'abandonner ce qui est à abandonner, ou d'acquérir ce qui est à acquérir. Si j'ai tendance à prendre la mouche facilement sur tel ou tel sujet ou avec telle ou telle personne, il me faut reconnaître ces torts-là pour les travailler dans ma vie personnelle. Sinon, ce comportement risque de m'isoler, de me discréditer auprès de mes proches ou des personnes concernées. Alors, dernière petite phrase, tout le monde le fait. David aurait pu le dire à Nathan, « Écoute, Nathan, t'es gentil, mais coucher avec une femme mariée, pff, tout le monde le fait aujourd'hui, mon pauvre Nathan. Mets-toi au courant un peu, mets-toi à la page. Tu te fais des scrupules pour rien, Nathan. » David aurait pu dire ça à Nathan, il envoyait paître. Banaliser les torts que l'on a, les traiter pour rien, les traiter pour l'usage de tout le monde, les prendre pour lui, ou les présenter comme l'usage de tout le monde. Tiens, ça me fait penser à ce qu'a écrit l'apôtre Paul, comme s'il allait répondre d'avance à cette phrase que David n'a d'ailleurs pas dite. Ne faites pas comme tout le monde. C'est ce qui est écrit dans la lettre aux Romains. Alors, en bonne vieille traduction seconde, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent » pour les puristes. Et moi, je le traduis « Ne faites pas comme tout le monde ». Ce n'est pas parce que y a plein de gens qui font une chose qu'il est légitime de la faire. D'autant plus pour un chrétien qui prétend avoir une éthique, une manière de vivre différente des autres. Notre modèle, en effet, n'est pas la société du moment, mais le Christ de toujours. Si des tas de gens ne viennent pas au culte, vais-je les imiter ? Vous ne l'avez pas fait, puisque vous êtes là, et bravo. Si des tas de gens pratiquent la fraude fiscale, je vais le faire aussi. Si des tas de gens abusent de l'alcool, je vais le faire aussi. Et je dirais, tout le monde le fait. Quelle crédibilité aurais-je ? Quelle légitimité aurais-je en tant que chrétien dans ce monde ? On pourrait continuer cet exercice à inventer encore d'autres petites phrases. Je vous ai proposé la lecture du verset 5 en négatif, c'est-à-dire pour bien nous faire comprendre la dimension, du moins tenter de le faire modestement, de cette petite phrase « Je reconnais mes torts ». Qu'est-ce que dit le psaume après ? Je ne lirai que le verset 12. « Crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, rends à nouveau le souffle sûr en moi. » Il ne faut surtout pas en rester à ses torts. Une fois qu'on les a reconnus, ok, c'est bien, mais il faut aller à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est ce rafraîchissement, cette purification, ce pardon, cette grâce, cette vie, cette lumière qui vient inonder nos cœurs, nos pensées, nos êtres intérieurs. Il y a une grande joie qui se trouve dans ce psaume. Parce qu'on est passé par le chemin le plus efficace pour l'avoir, cette joie. Celui de l'humilité de reconnaître nos torts et de recueillir le pardon de la part de Dieu, de savoir le demander à d'autres aussi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et puis aussi l'idée de demander ce pardon. Que le Seigneur nous conduise dans cette lecture de l'histoire de David, de ce passage sombre de sa vie qui nous donne un enseignement à tous parce que nous sommes tous des David en puissance. Même si nous n'avons pas forcément commis d'adultère ou de meurtre, Nous avons tous ces choses qui parfois nous font du mal, sont du mal dans nos vies. Je vous invite à la prière. Nous te remercions, Seigneur, parce que devant toi, nous pouvons reconnaître nos torts sans craindre d'être rejetés, sans craindre d'être écrasés, sans que cela soit pris pour un simple aveu de faiblesse. C'est une démarche honnête que nous devons faire devant toi, Seigneur, pour qu'elle soit tout simplement vraie. Car de toute manière, tu vois au plus profond de nous-mêmes. Et cette démarche, Seigneur, ouvre la vie. Ouvre la grâce de ton pardon, de la communion avec toi, de la joie de ton peuple. Et nous te remercions, Seigneur, pour cela. Merci pour la grâce qui est en Jésus-Christ. Merci pour la grâce qui est dans l'exemple qu'il donne. Nous te louons, Seigneur, pour cette histoire de David qui commence bien mal, qui a provoqué des drames, mais qui en même temps se termine par l'accueil de ta grâce et de ton pardon. Merci, Seigneur, de nous donner d'imiter ce chemin dans nos propres vies à chacune et à chacun d'entre nous. Amen.